Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à des notions dont il est sans cesse question dans les relations internationales. Il s'agit de la guerre et de la paix. Pourquoi la guerre? Question cruciale, intemporelle, voire irrésolue. Les guerres sont-elles inévitables? Sont-elles en déclin? Où et pourquoi? Par le passé, ce sont surtout les nations qui se battaient. Aujourd'hui, les guerres sont plus intra-étatiques. On se bat pour le sous-sol. Le pouvoir nucléaire est-il une prévention contre la guerre? Autant de questions alors que l'entrée dans le 21e siècle n'a pas relégué la guerre dans la catégorie des reliques de l'histoire, bien au contraire. Comment comprendre aussi que la production scientifique sur le sujet soit très dynamique dans les mondes anglo-saxons et scandinaves, et beaucoup moins ailleurs, notamment en France? Autour du dictionnaire de la guerre et de la paix, paru aux presses universitaires de France, nos invités, le colonel Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Ramel, professeur des universités à Sciences Po Paris, chercheur au CERI CNRS et directeur du département de sciences politique. Bonjour.
Bonjour.
Ce dictionnaire donc vient combler un déficit. Comment est-ce que vous expliquez que les war studies, les études sur la guerre, existent depuis longtemps dans les pays anglo-saxons, voire chez certains de nos voisins européens comme au Danemark, mais rien de comparable dans les universités françaises? Qui finalement sont les responsables de ces lacunes?
Marie-France, qu'il y a déjà deux processus à prendre en compte. Le premier, c'est une très lente banalisation des études stratégiques. Quand je parle de banalisation, j'entends tout simplement le fait que on peut considérer l'objet militaire et le fait guerrier comme un objet de recherche banal comme les autres. Et ce travail de banalisation a été laborieux parce que ce champ a été très appréhendé par soit des idéologues qui étaient pacifistes, soit d'autres acteurs qui étaient automatiquement taxés de bellicistes. Et on a eu du mal à sortir de ce clivage et de cette façon très idéologique, en fait, d'aborder l'objet de recherche. Donc, banalisation. Le deuxième processus, je dirais qu'il y a une très forte fragmentation de ce champ de recherche, puisqu'il est appréhendé par différentes disciplines, des disciplines très, très installées, je pense à l'histoire en particulier, et des disciplines plus récentes, je pense à la science politique. Et contribuer à faire travailler ensemble de façon pluridisciplinaire, des sociologues, voire des philosophes, des historiens, des politistes, ce n'est pas chose aisée, notamment au moment du recrutement, parce que nos collègues, ils sont recrutés dans les disciplines. Donc c'est la raison pour laquelle créer des départements de War Studies a été beaucoup plus difficile, à mon sens, en France qu'ailleurs. En sachant que il faut aussi, à mon sens, éviter les effets de mimétisme, parce qu'à force de mimer, on oublie notre singularité. Au moment d'ailleurs où King's College Imagine, qui est un petit peu, je dirais, la référence très souvent lorsqu'on parle de War Studies, eh bien, King's College considère que les War Studies, ce n'est pas que les études sur la guerre. On a une conception très extensive. Et il ne faut pas oublier aussi les études sur la paix, qui sont complètement connectées avec les enjeux de guerre contemporains.
Alors là, vous parlez des Anglais, chez les Américains?
Chez les Américains, il y a aussi évidemment plus d'appétence sur ces questions, avec une particularité que l'on ne retrouve pas en France. C'est par exemple l'existence de la National Defense University, qui est un espace de connexion entre les praticiens, les militaires et les universitaires. Il y a une très forte circulation, je dirais, à la fois des fonctions, des militaires dans des postes académiques et vice versa. Enfin, c'est plus compliqué, mais évidemment, il y a une très forte circulation. Malheureusement, en France, il y a eu des initiatives, je pense que Jérôme m'en parlera beaucoup plus que moi et mieux que moi, mais ces initiatives ont eu encore du mal à véritablement s'institutionnaliser. Des espaces, il y en a quelques-uns, heureusement, mais ces espaces sont moindres.
Alors, pour poursuivre avec cette notion de déficit des études sur la guerre, Jérôme Pellistrandi, est-ce qu'on peut estimer que les armées sont elles aussi responsables de ces lacunes? Les militaires ne sont pas de grands bavards.
Alors, c'est une longue histoire. Il faudrait remonter, on pourrait dire, jusqu'au 19e siècle, avec le clivage entre, effectivement, le monde militaire, le monde intellectuel. N'oublions pas, par exemple, l'affaire Dreyfus, qui a profondément marqué. Et puis, cette interconnexion complexe entre, effectivement, l'histoire militaire, la propre histoire politique de notre pays, et le fait qu'il y a la confrontation, en quelque sorte, de deux institutions régaliennes, l'université et les armées, qui elles-mêmes ont finalement la même durée historique. Donc, ça a été compliqué de faire dialoguer, mais il faut reconnaître qu'il y a eu de profondes évolutions, et comme le dit Frédéric, il y a maintenant des espaces de convergence. D'abord, par exemple, vous avez, et dans le dictionnaire de la guerre et de la paix, vous avez un certain nombre d'auteurs militaires qui eux-mêmes ont un parcours universitaire. Moi-même, j'ai un doctorat en histoire. Donc, d'une part, des militaires attiré par la réflexion stratégique, et c'est vrai que aujourd'hui, dans un monde encore plus fragmenté, il y a vraiment ce besoin de dialogue permanent entre, on va dire, les praticiens que sont les militaires, mais également les diplomates et les chercheurs, les universitaires, pour croiser et comprendre des phénomènes qui sont complexes, hein, aussi bien la guerre que la paix.
C'est ça, c'est vraiment cette fragmentation du monde, cette complexification du monde qui exige et demande, en tout cas de la part de la des opinions publiques, des décryptages et des éclaircissements sur les, la chose militaire, et tout de même votre spécialité à vous, les militaires. Donc les choses sont en train de bouger. Alors, pour parler de la guerre, ce qu'on et de la paix, ce qu'on ressent tout de même aujourd'hui, c'est que d'abord, les frontières sont assez floues entre la guerre et la paix. On ne se déclare plus la guerre à proprement parler. On l'a fait. Ça, c'est un changement extraordinairement important, Frédéric Ramel.
Dans l'introduction, avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer et Benoît Durieux, et vous avez aussi peut-être, j'aimerais insister là-dessus, que l'équipe à la tête de ce dictionnaire, c'est une équipe mixte. Hein. Mmh. On a aussi un militaire, Benoît Durieux est un grand spécialiste de Clausewitz et un militaire d'active. On est parti sur l'idée de déspécification de la guerre, c'est-à-dire que la guerre est un fait social, un fait social qui, dans la modernité politique, était complètement lié aux États. Hein, je pense à la fameuse phrase de Charlty, l'État fait la guerre et la guerre fait l'État. Or, aujourd'hui, il y a un certain nombre de processus qui tendent à interroger tout d'abord cette désétatisation du fait guerrier. Mmh. Les États, d'abord, privatisent beaucoup leur propre sécurité, n'ont plus recours à la conscription, ont recours à des armées professionnelles. Donc, le rapport de l'État aux faits guerriers s'est transformé. Et il y a aussi, vous évoquez la question de la déclaration, il n'y a pas forcément de déclaration de guerre, mais nos soldats sont en vraie situation de guerre. L'expérience afghane, de ce point de vue-là, a été particulièrement illustrative. Hein. Je parle en particulier sur l'exposition au feu, ce qui est d'ailleurs une des caractéristiques d'une partie des conflits armés contemporains, des conflits asymétriques avec une très forte implication de l'armée terrestre. Et ce rapport des États à la guerre fait que nous vivons dans des situations de guerre où, paradoxalement, le temps de guerre et le temps de paix, les zones de guerre et les zones de paix sont floues.
Mais tout est flou finalement parce que les États ne parlent pas non plus de guerre. On ne parle pas de guerre aujourd'hui, sauf de guerre contre le terrorisme, guerre contre la drogue. On parle d'intervention, d'opérations militaires. Comment expliquer cela, Jérôme Pellestrandi ?
Alors là aussi, il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut après la guerre d'Algérie, donc en 62, donc d'abord la Ve République va se construire autour on tourne la page et avec. Un adversaire qui était le pacte de Varsovie. Mmh. Bon. Et nous avons eu à partir des années 70, en fait, à partir sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, des premières opérations extérieures, Mauritanie, et cette année, par exemple, nous allons fêter le 40e anniversaire de l'opération à Kolwezi, qui a visé à sauver des vies. Donc, on a parlé effectivement d'opérations. Mais il y a eu un changement sémantique très significatif, et moi je peux le dire, après 38 années de carrière, donc je le vois bien, après la fin de la guerre froide, donc à la chute du mur, on ne parlait plus d'ennemis, on parlait d'adversaires, de menaces, de risques. Et il y a quelque temps, nous avons quand même donc Jean-Yves Le Drian qui, en tant que ministre de la Défense, a écrit un livre qui est l'ennemi. C'est un changement sémantique profond. C'est-à-dire que on a voulu à un moment donné toucher les dividendes de la paix, et aujourd'hui, on se retrouve confronté à un ennemi, et derrière le mot « ennemi », cela signifie un degré de violence qui n'était pas celui auquel on s'était habitué dans cette période, dans les années 90-2000, où on avait des opérations de maintien de la paix. Et là, aujourd'hui, le changement sémantique est significatif.
Alors, on a effectivement, au moment de l'effondrement du mur de Berlin, on a cru à la fin de la guerre. Frédéric Ramel. Alors c'est vrai qu'il y a eu les événements de 2001 aux États-Unis et pour la France, les attentats de 2015. Est-ce qu'on peut dire que les attentats de 2015 en France ont eu l'effet septembre 2001 aux États-Unis ?
Je pense qu'il y a un effet 2015 qui se situe, je dirais, tant à l'échelle politico-stratégique des décideurs, de l'élite, puisqu'on a revu la rhétorique de la guerre contre la terreur ressurgir, mais cette fois-ci non pas outre-Atlantique, mais en France. Mmh. Et puis, alors je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est difficile à manipuler, dans les opinions publiques et en particulier chez les jeunes, une préoccupation de plus en plus importante autour de ces enjeux de sécurité, qui est diffuse aussi. Mmh. Avec beaucoup d'incertitudes. Cela a généré en effet toute une série de réflexions, mais qui participent à nouveau, pour là je parle en tant que plutôt politiste, qui alimentent le débat entre les tenants, je dirais, de l'approche classique ou stratégique classique à la Clausewitz, qui considère que la guerre est une relation d'État à État, mais une relation dans laquelle il y a une dialectique de volonté, et où on peut considérer que, Jérôme parlait de l'ennemi qui s'appelle l'État islamique ou qui s'appelle la Russie, il doit être traité de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne change pas le modèle. Dans ce modèle clausewitzien. Et puis, il y a une autre approche qui s'est développée au moment que vous évoquez, c'est-à-dire pendant les années 90, sous la plume d'auteurs comme l'historien von Creveld ou Marie Kaldor, qui parlait de nouvelles guerres. Et dans ces nouvelles guerres, les États ne sont plus forcément les acteurs clés. Il y a des liens entre ces seigneurs de guerre et la criminalité organisée qui rend, du coup, la gestion de cet ennemi plus compliquée pour les États, qui sont en rapport stratégique, en rapport de guerre avec ces acteurs.
Jérôme Bellestrandière, un commentaire sur ce que vient de dire Frédéric Ramel ?
Oui, je partage tout à fait son avis. Et ce qui est effectivement relativement nouveau, c'est que dans la conflictualité actuelle, les populations redeviennent un enjeu. C'est-à-dire que dans la période de guerre froide, c'était soit la destruction mutuelle, donc la dissuasion nucléaire jouée à plein son rôle, les populations civiles étant en quelque sorte prises en otage sans le savoir. Or, aujourd'hui, on le voit à travers les conflits auxquels, par exemple, la France est concernée, les populations sont un vrai enjeu, un enjeu militaire, mais aussi un enjeu politique. Et c'est ce qui complexifie effectivement la situation, parce que sur le terrain, vous pouvez avoir des populations locales qui sont à la fois terroristes, victimes, trafiquants, idéologisés, et là, ça complique effectivement cette relation à la violence.
Et ça impose aussi de repenser une partie des règles de la stratégie. Finalement, est-ce qu'un pays peut avoir une stratégie face à la multiplication des conflits asymétriques, ou ce sont plutôt des stratégies ? Frédéric Ramel.
Alors, il y a de cela plusieurs années, voire plusieurs décennies, pour rendre compte de ces plusieurs stratégies que vous évoquez, on a inventé ce qu'on appelle l'approche dite globale. Cette approche dite globale consiste à articuler ce qu'on appelle, entre guillemets, l'outil de défense, les interventions humanitaires, mais donc pour protéger les populations, les actions en termes de développement et plus largement des opérations post-conflit. Il s'agissait donc du coup d'avoir une approche globale. Mais cette approche globale, elle pose, à mon avis, un immense enjeu pour les militaires. Parce que les militaires, eux, ils sont formés pour faire la guerre, avec des objectifs particuliers qui, évidemment, doivent être le plus précis possible. Sinon, ils peuvent se retrouver dans une situation très délicate. Avec la difficulté de cette approche dite globale, à partir de là, tout est potentiellement source de guerre. Donc, on n'arrive plus à isoler le phénomène guerre. Et ça peut avoir des effets pervers. Et au-delà de cette approche globale, il y a, à mon sens, alors ici je me restreins à la question de ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme, il serait, à mon avis, extrêmement dangereux de considérer que la seule et unique stratégie pour traiter cette menace ou ces menaces terroristes serait l'instrument militaire. L'instrument militaire est un instrument parmi d'autres et ne pourra pas résoudre à lui seul cette menace.
Jérôme Pellestrandi.
Oui, alors d'autant plus qu'il faut bien prendre en compte, je dirais, la spécificité française, c'est-à-dire que notre histoire, notre position politique, je rappelle que nous sommes l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous fait devoirs et obligations. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, en quelque sorte, entre guillemets, je dirais, échapper à notre destin. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a sur un certain nombre de préoccupations une obligation d'agir. Alors effectivement, sachant que la réponse militaire n'est pas suffisante. Mmh. Elle est parfois nécessaire, utile, mais elle doit s'accompagner d'autres choses. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, il faut en plus raisonner en plan géopolitique. Par exemple, la présence de nos forces armées, par exemple, je veux dire, en Guyane ou dans les Antilles, c'est plus, par exemple, une question de souveraineté plutôt qu'une question de être capable d'aller faire la guerre. La situation est différente si vous prenez, par exemple, dans la zone de l'océan Indien ou en Méditerranée orientale, mmh, où les rapports de force, mmh, sont différents.
S'afficher une présence. Alors, pour terminer cette première partie d'émission, on va rester sur la France pour évoquer la professionnalisation des armées décidée par Jacques Chirac. Est-ce qu'elle change définitivement le rapport de notre pays à sa défense et partant sa capacité d'acceptation du combat et la réduction des effectifs, lesquels effectifs doivent faire passer l'armée française sous la barre des 200 000 militaires? Est-ce que la France peut encore faire la guerre et comment caractériser les conflits auxquels la France participe, Frédéric Ramel?
C'est une question très délicate que vous posez. C'est la question de l'adaptation des moyens militaires au contexte stratégique contemporain. Ce qui est flagrant, c'est que malgré, évidemment, les phénomènes récents, on l'a bien vu, il y a un retour de ce qu'on appelle, entre guillemets, la grande géopolitique, avec, évidemment, la position russe en particulier, la question de l'affrontement entre États n'est pas forcément quelque chose qui renvoie aux reliques du passé, aux reliques de l'histoire. Mmh. C'est une problématique qui reste tout à fait pertinente, alors qu'il est peut-être plus dans certaines zones du monde, je pense en particulier en Asie, mais du moins ce phénomène classique de la relation entre États, la guerre comme relation d'État à État avec armée, ce n'est pas quelque chose qui doit être du coup complètement gommé, même si ces formes-là, on l'a bien vu avec le cas ukrainien, prennent ce qu'on appelle des formes hybrides. C'est-à-dire que ça articule des interventions militaires avec des opérations de force spéciale, des opérations d'influence qui constituent peut-être une des particularités des guerres contemporaines ou des conflits armés contemporains. Donc, est-ce que ça suffit? Est-ce que il y a une question de suffisance? Ce n'est pas à moi de trancher. La seule chose que je peux peut-être... c'est sur quoi on peut mettre l'accent, c'est qu'il y a une tendance actuelle, en particulier du point de vue des États occidentaux, à privilégier une forme de ductilité. D'être très ductile. C'est-à-dire, on utilise moins forcément des armées sur un front, mmh, que justement des drones ou des forces spéciales qui vont intervenir de façon plus resserrée, plus ponctuelle. Alors ça, c'est une partie, évidemment, de la projection de la force de puissance. Mais il y a cette tendance-là et qui est considérée comme une adaptation au contexte stratégique contemporain.
Jérôme Pellestrandi.
Oui, la décision donc de professionnaliser, donc qui a été prise il y a déjà plus de 20 ans, 1996, fait que aujourd'hui le modèle français est un modèle entièrement professionnel, comme d'ailleurs on le voit bien, les autres armées européennes se calquent sur le modèle français. La problématique du recours aux soldats citoyens aujourd'hui ne se pose plus, sauf pour des raisons alors de politique intérieure ou par exemple pour des problèmes de sécurité intérieure. Mais il est clair que le modèle, et on va dire le modèle occidental en quelque sorte, aujourd'hui est effectivement un modèle très professionnalisé, un modèle où on veut éviter de s'embourber sur des conflits dont on voit bien, il suffit de prendre l'Afghanistan, où on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc effectivement, aujourd'hui, l'action militaire se caractérise par cette volonté d'aller vite, d'être le plus léger possible et surtout d'essayer de trouver la solution politique. En fait, le véritable enjeu, et c'est ce qui se passe par exemple au Sahel, le véritable enjeu, c'est de permettre par exemple à nos partenaires africains de trouver des solutions politiques.
En même temps, on sent un décalage entre le temps court pour les uns et le temps long pour les autres. Ce sera peut-être ce qui nous permettra de démarrer la deuxième partie de l'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, le colonel Jérôme Pellestrandi et Frédéric Ramel, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la guerre et la paix à l'occasion de la sortie du dictionnaire de la guerre et de la paix paru aux presses universitaires de France. Nous retrouvons nos invités, le colonel Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, et Frédéric Ramel, professeur des universités à Sciences Po Paris, chercheur au CERI CNRS et directeur du département de sciences politiques. L'Europe fête cette année 2018 le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce que l'on constate, ce sont des fractures toujours présentes sur notre continent, discorde entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, tensions dans les Balkans, guerre en Ukraine. Comment voyez-vous l'un et l'autre l'Europe ? Frédéric Ramel.
Je pense qu'il y a tout d'abord un effilochage de la raison d'être de la construction européenne. Le rapport des jeunes à l'origine de la construction européenne, hein, c'est-à-dire que c'était d'abord un projet de réconciliation franco-allemande avec un contexte de guerre froide, ça semble être assez oublié. Mais en même temps, les initiatives sont aussi récentes dans le domaine de la défense. Hein, c'est que depuis 2003 qu'il y a les premières opérations européennes. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que pour la première fois depuis quelques mois, on considère que l'autonomie stratégique de l'Europe n'est plus un gros mot. Et ça me semble être peut-être une révolution des mentalités avec peut-être, ici, le Brexit est une opportunité. On parle le fameux livre blanc de la défense à l'échelle européenne. Le Royaume-Uni ne voulait jamais en entendre parler. L'Allemagne disant, c'est pas le moment. La France a toujours été plutôt porteuse et à l'initiative de la création de ce livre blanc. Je pense qu'il y a une réactivation de cette Europe dans un contexte qui est extrêmement lourd, hein, tant du point de vue du rapport à la Russie que par rapport aux nouvelles formes de menaces, avec la question du rapport aux migrations. Il y a une demande d'Europe aussi de ce point de vue, parce que pour l'instant, c'est plutôt une crise de la solidarité qui s'est manifestée. Et parler d'autonomie stratégique pour l'Europe, ça me semble être quelque chose d'assez nouveau dans le discours et dans les représentations que nous avons du continent.
Jérôme Pellistrandi, l'autonomie stratégique de l'Europe n'est plus un gros mot ?
Non, mais c'est en même temps un véritable sujet très complexe, hein, puisque au-delà du projet de réconciliation franco-allemande, il faut souligner que l'Europe a confié sa sécurité à l'OTAN. L'OTAN avec le poids particulier des États-Unis. Et donc aujourd'hui, et là on l'a vu effectivement avec d'une part le Brexit et l'élection de Donald Trump, où les Européens se rendent compte qu'il faut bouger, il faut évoluer. Maintenant, la difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est que il faut faire bouger les peuples, il faut les faire adhérer, il faut qu'il y ait donc un projet qui soit crédible. Et c'est vrai que aujourd'hui la France se retrouve un petit peu, elle est première de cordée, mais il va falloir tirer les autres. Et en fait, la véritable difficulté, elle est de tirer les autres, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous prenez par exemple nos partenaires en Europe de l'Est, pour eux, il n'y a qu'une menace, je dirais, en mettant entre guillemets, c'est pratiquement la menace soviétique. Bon, il faut leur expliquer que au Sud, il y a aussi des problématiques. L'instabilité au Sahel concerne tout le monde. Et il faut aussi, par exemple, avec nos partenaires italiens, leur dire que la Russie pose aussi des questions. Donc, des enjeux compliqués, mais pour lesquels la voie européenne est essentielle si on veut progresser.
Alors, je reprends plusieurs portes d'entrée de ce dictionnaire. J'en ai relevé, voilà, il y a évidemment une foultitude, mais il faut faire des choix. L'Afrique. À la lettre A, Afrique, continent actuellement réputé être l'un des continents les plus bellicistes du monde. Je donne quelques chiffres. Il y a eu les guerres précoloniales, les guerres africaines de libération nationale, les guerres africaines post-guerre froide, pour un coût humain sur 25 guerres recensées depuis 1960. Les 18 qui étaient des guerres civiles ont entraîné la mort de plus de 10 millions de personnes. Avec aujourd'hui 95% de guerres intra-étatiques, les conflits africains contemporains se présentent comme l'expression par excellence du terrorisme des groupes islamistes révolutionnaires. L'auteur de l'article sur l'Afrique pose la question de savoir si le continent africain n'est pas en retard d'une guerre, celle contre l'intégrisme religieux. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Frédéric Ramel ?
Alors, le professeur Ntouda Ebodé, qui est un collègue camerounais, on tenait aussi à ce que, justement, dans ces entrées régionales, on ait des spécialistes de ces zones, insiste finalement sur le fait que un des enjeux stratégiques auxquels se heurtent les États africains aujourd'hui, c'est justement la recomposition des menaces. Évidemment, Boko Haram est l'une des manifestations de cette recomposition de la menace, avec la question de l'adaptation, évidemment, des outils stratégiques qui peuvent être, du coup, envisagés engagée pour appréhender ce type de menace. J'étais en janvier dernier à l'école de guerre à Yaoundé, au Cameroun, et j'ai été assez agréablement surpris de voir la réception de ce dictionnaire, en insistant sur le fait que nos collègues africains disaient « oui, évidemment, il y a beaucoup de choses dans ce dictionnaire qui relèvent de l'histoire, etc. » et donc ils ne sont pas forcément connectés directement aux intérêts premiers, je dirais, des élèves de l'école de guerre. Mais il y a aussi un certain nombre d'entrées qu'il ne faut pas oublier, des entrées qui portent sur l'architecture de sécurité, sur les organisations internationales. Il y a aussi une dynamique d'intégration sous-régionale avec des réponses que les Africains cherchent à creuser, à envisager de façon collective et qui aussi montrent que face à ces nouveaux types de menaces, et je dirais que depuis le 17 octobre dernier, évidemment, la question de la circulation de ces membres de l'État islamique qui vont revenir en partie sur le continent africain inquiète beaucoup, eh bien c'est une des préoccupations actuelles des jeunes Africains.
Alors, je voudrais souligner aussi que il y a des Afriques. La situation dans la corne de l'Afrique n'a rien à voir avec celle que l'on a au Sahel ou celle qu'on a autour des Grands Lacs. Donc, des Afriques. Il y a effectivement le fait religieux qui est très prégnant. On le voit avec, par exemple, au Nigeria, avec Boko Haram. Mais bon, il y a aussi, et c'est un problème non résolu, la question ethnique. Les rivalités ethniques restent une réalité dans un certain nombre de pays, y compris ceux qui sont engagés dans des processus de vie politique démocratique dans lesquels il faut des équilibres entre les ethnies. Mais il y a quand même des points positifs. On le voit par exemple à travers le G5 Sahel, où on arrive enfin à faire parler et travailler entre eux des pays africains de la même région au Sahel. Parce qu'il y a aussi des antagonismes régionaux. Mmh. Et il faut pouvoir lever ces antagonismes régionaux. Et par exemple, on peut se réjouir de voir des grands projets d'infrastructure, réhabilitation de voies ferrées entre les États, qui vont contribuer à resserrer les liens et progressivement, mais il faudra du temps, à construire des zones de stabilité.
Alors, je poursuis sur ces portes d'entrée. Trois chapitres consacrés aux questions psychologiques. Alors, il y a psychanalyse, blessures psychiques et psychologie dans ce dictionnaire de la guerre et de la paix, ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Ce sont des chapitres qu'on n'aurait pas trouvé dans un dictionnaire comme celui-là, il y a 20 ou 30 ans, Frédéric Ramel.
Alors, je dirais que ça renvoie à une demande de l'institution elle-même, et puis à un état du champ. Demande, je me rappelle très bien que lorsque j'étais au sein de l'IRSEM en tant que directeur scientifique, l'ancien SEMA, qui était à l'époque major des armées, nous avait demandé explicitement des travaux sur la psychologie liée à l'exposition de ses propres soldats au stress. Mmh. Je fais à nouveau allusion au cas afghan. Et donc il y a une demande de l'institution pour mieux comprendre ces situations et la dimension psychologique et psychique des soldats en guerre, parce que quelque part derrière il y a un coût. Hein. On voit le coût américain en particulier des vétérans qui est énorme de ce point de vue-là. Et puis, un état du champ, je dirais que ce dictionnaire avait vocation aussi, au-delà du dictionnaire de la stratégie qui existait jusqu'alors sur le marché, entre guillemets, d'élargir un petit peu le spectre. Vous avez aussi des entrées, alors vous avez ici évoqué la question psychologique, mais il y a beaucoup d'entrées aussi qui sont un peu innovantes. Je pense à l'entrée musique que j'ai par exemple commise avec mon collègue Jean-Jacques Roche, ou aussi donc du coup des éclairages de la guerre à partir d'autres prismes. Et d'ailleurs, on a un petit peu une frustration. On voulait faire une entrée vêtements, qui n'est pas évidemment anodine pour les soldats, qu'on n'a pas pu réaliser, peut-être pour une des prochaines versions. Mais c'était aussi l'esprit du dictionnaire, d'élargir le propos de compréhension de la guerre et de la paix comme fait social, total.
Alors, l'attentat suicide, Jérôme Bélistrandi, c'est une forme inédite de guerre. Et j'ai lu que finalement, c'était aux psychanalystes d'aujourd'hui qu'il incombait de penser ce phénomène. On a quelques idées tout de même.
Oui, alors, c'est quelque chose qui est effectivement relativement nouveau. On a connu les guerres clausewitziennes des formes de suicide. C'était les pilotes kamikazes japonais avec une idéologisation très forte, donc où on allait mourir pour l'empereur. Et donc on voit bien que pour commettre un attentat suicide, il faut qu'il y ait derrière un background idéologique ou une volonté extrêmement ferme, puisqu'elle aboutit à se faire exploser ou détruire. Donc il est important aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à en particulier des attentats kamikazes, mais pas uniquement contre nos forces. On le voit, hélas, hein, tous les jours au Moyen-Orient, où ces attentats se multiplient contre les propres populations, de pouvoir comprendre les mécanismes qui amènent des jeunes, des enfants, des jeunes femmes, à aller à se faire détruire. Et donc, la compréhension de ces mécanismes peut permettre de, non pas de résoudre bien sûr le problème, mais de participer à la compréhension de ces mécanismes, et également de voir aussi derrière les implications qu'il peut y avoir sur notre propre population et par rapport à la radicalisation islamiste.
Alors, on a évoqué précédemment la question des drones. Je vais plus loin. L'intelligence artificielle, elle va avoir une place importante dans les questions de sécurité de demain. Les drones, ils ont pris beaucoup d'importance dans les conflits armés non internationaux. Il y a les conflits de basse intensité ou encore de contre-insurrection. La prochaine génération de ces drones, elle va disposer d'intelligence artificielle qui permettra aux drones de décider seuls quelle cible est légitime. Il s'agit de vraies questions, probablement aussi de limites, peut-être à ne pas franchir. Est-ce qu'il faut interdire les armes autonomes ? Frédéric Ramel.
Avant de répondre à cette question, je dirais que c'est assez symptomatique du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser la guerre de façon isolée de ce qui se passe dans le reste de la société. La guerre n'est pas et la paix, évidemment, ne sont pas des phénomènes qui sont isolables. Et on le voit particulièrement sur le transhumanisme aujourd'hui, sur ces réflexions sur l'homme augmenté. Eh bien, le domaine militaire est lui aussi affecté par ces processus et par ces transformations. Pourquoi on a recours aux drones ? Ben, il me semble d'abord aussi important de souligner qu'on évoque très souvent le risque, l'exposition au risque pour éviter que le combattant soit exposé au feu. Oui, mais c'est pas le facteur principal. C'est essentiellement pour des raisons stratégiques qu'on a recours à ces drones. Le fait qu'on pense par exemple au vol permanent qui permettrait d'avoir une endurance que ne permet pas un combattant humain, je dirais. Donc on a d'abord recours à cet outil pour des raisons stratégiques. Il ne faut pas non plus l'oublier. Alors évidemment, ça pose des questions éthiques, mais ces questions éthiques, on aurait tort aussi de considérer qu'elles sont complètement nouvelles. Alors oui, il y a une forme de nouveauté à travers ce que vous évoquez sur l'automatisation de ces drones, mais en même temps, la question du rapport à la cible, le fait qu'on est éloigné de la cible, hein, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans l'histoire de la stratégie. Hein. La question de la protection du combattant par rapport à sa cible, les archers déjà à l'époque médiévale étaient considérés comme finalement des combattants lâches et donc ils n'appliquaient pas l'éthique de la vertu nécessaire et sous-jacente aux combattants. Donc tout cela vient être réactivé autour de la technicisation de ces drones. Donc ces débats normatifs ne sont pas forcément complètement nouveaux en fait.
Alors tout de même, l'homme augmenté, mais jusqu'où, Jérôme Pellistrandi ?
Alors, ce qui m'inquiète dans le débat sur l'homme augmenté, c'est pas tant ce qui pourrait exister, je dirais, chez nous, en France ou du moins en Europe, c'est ce qui pourrait et c'est ce qui se passe, en particulier, je pense, dans le monde asiatique et en Chine. Notre rapport au corps est différent. Nous avons, on le voit bien par exemple à travers les débats sur la bioéthique. Il y a des limitations dans notre société occidentale, hein, liées à son histoire judéo-chrétienne, des limitations sur lesquelles on dit attention, n'allons pas. Voilà, où sont les limites terminator, attention. Or, on constate que dans les domaines de la dronisation, des armes autonomes, de l'intelligence artificielle, ces barrières n'existent pas ailleurs. Et en particulier, notamment en Chine. Et donc, nous risquons demain d'être confrontés à des systèmes complexe, dans lequel effectivement, pour une efficacité opérationnelle, on va supprimer la place de l'homme. Alors que dans nos systèmes à nous, même à travers les drones et les robots, on voit bien que le décideur reste au cœur du problème. Et le décideur, en particulier, le décideur politique. Voilà. Et donc, il va falloir être vigilant sur ces évolutions et bien prendre en compte ce qui se passe ailleurs. Parce que, effectivement, les tentations de transhumanisme sont peut-être encore plus fortes ailleurs auront un impact sur notre fonctionnement.
Donc regarder ce qui se passe ailleurs, c'est finalement nous laisser assez peu de choix, si j'ai bien compris ce que vous avez dit jusqu'à présent sur cette question des drones. Et l'avènement des drones, il signifie la disparition du combattant ?
Non, le combattant, il est là, on le voit bien. Je dirais que c'est exactement, pour prendre une image triviale, c'est comme la vidéosurveillance qui permet de faciliter le travail de sécurisation d'un bâtiment et de permettre aux vigiles de faire un travail efficace. Mmh. Bon, le combattant sera toujours là, mais, et pour revenir à ce que disait Frédéric, le combattant, il ne fait pas que combattre. Dans nos opérations, par exemple, nous, je pense au Sahel, le combattant, c'est aussi quelqu'un qui va au contact des populations, il participe à la reconstruction des États, et je crois que ça, c'est une dimension fondamentale. Donc, et ça, le drone, il ne permettra pas de reconstruire une cour d'école, il permettra pas d'avoir ce contact avec la population. Par contre, il permet à une unité de savoir ce qui se passe loin et de se prémunir face à des attaques.
Et de toute façon, pardonnez-moi, pour ajouter ce que vient de dire Jérôme, il y a aussi ce qu'on appelle l'écrasement du processus décisionnel. Aujourd'hui, les combattants qui utilisent des drones ne tirent pas immédiatement comme cela. Il y a un certain nombre de procédures à respecter et donc on peut difficilement imaginer que lorsqu'on parle d'une automatisation du drone, il n'y ait pas de retour évidemment du robot à son supérieur hiérarchique. Il n'y aura pas d'une autonomisation absolue. Au contraire, il y a une forme de contrôle qui correspond à ce qu'on appelle parfois le général tactique dans le lexique et la rhétorique militaire.
Oui, juste pour prendre un exemple dans le passé, lorsqu'il y avait le mur de Berlin et le rideau de fer, vous aviez donc dans les années 80 des armes à déclenchement automatique, c'est-à-dire que du côté contrôlé par le pacte de Varsovie, pour empêcher des réfugiés est-allemands, il n'y avait pas de réflexion, c'était des systèmes automatiques qui tiraient des rafales de mitrailleuses. C'est pas une nouveauté.
Alors, dernier chapitre, web social à la lettre W. Les images qui nous parviennent des zones de guerre sont de plus en plus nombreuses. Elles sont même plus nombreuses que jamais. Quels effets, Frédéric Ramel?
Alors, il y a d'abord un effet qui vise à alimenter la compassion et l'empathie, parce que ces opérations, lorsqu'elles sont menées, elles supposent aussi le soutien des opinions publiques. Donc, il y a cette dimension-là, contribuer à l'acceptation de l'utilisation des moyens militaires, mais aussi à la légitimation. Mais j'aimerais quand même aussi insister sur un point. C'est-à-dire que il y a un effet déformant, parfois, un biais des images. Et je pense qu'il faut inviter vos auditeurs à lire aussi l'entrée chiffres ou données chiffrées, analyse des chiffres, parce qu'il permet, elle permet cette entrée de recoller et de nuancer le propos. C'est-à-dire que on pourrait considérer que, notamment en France, depuis les attentats de 2015, eh bien, nous mourons sous les effets des attentats terroristes, mais dans la réalité des statistiques, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je dirais mourir d'un accident sur la route ou d'un accident cardiovasculaire est tout aussi, voire plus important que mourir dans des attentats et dans des conflits armés. Il y a une réduction du nombre de morts, mais en même temps, il y a une très forte visibilité, c'est cet élément-là qui ressort, en effet, lorsqu'on appréhende le web social.
Une sorte de focus, Jérôme Palestrandi, en guise de conclusion aussi.
Alors effectivement, c'est à la fois un enjeu, c'est un enjeu collectif, un enjeu individuel, avec le fait que tout le monde croit maintenant savoir tout ce qui se passe sur le monde. Et donc, la difficulté, notamment lorsque vous êtes un décideur politique et militaire, c'est à travers le foisonnement de ces informations, de ces images, arriver à décrypter le vrai du faux et choisir les bonnes options. Et ce qui traduit la complexité aujourd'hui accrue de faire la guerre ou de faire la paix.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, le colonel Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, et Frédéric Ramel, professeur des universités à Sciences Po Paris, chercheur au CERI CNRS, autour donc de ce dictionnaire de la guerre et de la paix, on n'a pas beaucoup parlé de paix d'ailleurs, paru aux presses universitaires de France. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, nous serons à Grenoble pour la 10e édition du Festival de Géopolitique. Nous parlerons des élections en Russie et des relations russo-américaines. À samedi prochain.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.